simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est Les Régors. Chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Allez, bonsoir.
Bonsoir. Alors, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Donc, si vous êtes avec nous, c'est que vous n'écoutez pas la conférence de presse de Donald Trump. C'est une excellente idée. De toute façon, vous n'allez pas certainement apprendre grand-chose. Alors, ce soir, on vous propose, dans un premier temps, la seconde partie de l'entretien qu'on avait eu avec un camarade de la Horde sur la question de l'antifascisme et puis sur la question des activités de la Horde. Au cours de ces 12 dernières années, son avis sur la situation présente et son analyse de ce qu'est l'antifascisme aujourd'hui et de ce qu'il a pu être au cours des derniers temps. Alors, on va écouter ça, ça dure une demi-heure, c'est la seconde partie. La première partie est évidemment disponible sur le site de l'Égrégore, sur le site de Radio Primitive et sur le site de l'OCL. Je rappelle vite fait, hein, pour ceux qui n'auraient pas vu, alors dans un premier temps, on est revenu sur l'histoire de l'antifascisme radical, sur ses composantes, sur ses pratiques et ses activités, bien évidemment. Et puis, on est venu interroger sur qu'est-ce que pouvait être aujourd'hui une position antifasciste, pourquoi on pouvait avoir des critiques par rapport à cette position, et puis ensuite et surtout comment ça se traduisait à l'intérieur de la société et du mouvement d'avoir cette position soit antifasciste, soit que antifasciste, ou soit justement pas antifasciste. Enfin bon, c'est beaucoup plus simple d'aller dans le fond du débat et dans l'échange d'arguments et de la conversation, c'est pour ça qu'on vous passe cette deuxième partie, on y reviendra après, donc rendez-vous dans une demi-heure.
Mathieu.
Alors, je reprends la parole puisqu'on a un problème technique. Étonnant, non? Donc, c'est un entretien qui a été réalisé il y a 15 jours dans les locaux de FPP avec deux autres camarades qui m'accompagnaient pour ça. L'actualité des luttes, donc l'émission qui a été réalisée est évidemment une actualité, une émission jumelle de la nôtre. Et vous pourrez retrouver évidemment l'intégralité de cet entretien sur le site de l'actualité des luttes qui propose régulièrement tout un tas d'émissions, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Est-ce qu'on essaye de relancer ?
Vraiment un creux dans les années 2000, où on a dit, bon, l'extrême droite, comme le RN avait l'air au fond du trou, on avait l'impression que c'était la fin. Jean-Marie, il allait caner, et il n'y avait personne pour lui succéder. Il y avait une dissolution de tous les groupes radicaux. Donc, dans les milieux militants, on s'est dit, ah putain, ça y est, enfin, y a plus de... c'est fini l'extrême droite, on va enfin pouvoir passer à autre chose et faire des choses plus intéressantes. Et c'est vrai que c'était tentant. Et d'un côté, bah, les antifascistes un petit peu pointilleux dont nous étions, on a dit, bah non, il faut toujours garder un œil sur la bête, parce que On n'en sera jamais débarrassé. Et je pense que Marine Le Pen, en particulier, a beaucoup profité, et les identitaires aussi, du fait que le discours antifasciste n'a pas été réinventé. C'est-à-dire qu'au moment où on s'est rendu compte que le FN, c'était pas fini, qu'il y avait la fille qui allait reprendre et que ça allait même être pire parce qu'ils se normalisaient, enfin, ils changeaient d'image. Les identitaires, pareil, ils ont bousculé les codes. Qu'est-ce qu'ils ont fait au moment où l'antifascisme a voulu renaître? On a repris nos vieux discours, nos vieux schémas, nos vieux slogans de 10 ans avant, tu vois. Au lieu de se dire, bon, on est face à quelque chose d'un petit peu différent, il faudrait peut-être que nous aussi, on réinvente en face de l'antifascisme 2.0. Et en fait, cette prise de conscience collective, parce que c'est pas aux antifascistes de porter ça, tu vois, c'est vraiment tout le milieu qui
aspire à une société différente.
Exactement, ouais. Et qui doit voir ce danger-là. Après, là où les antifascistes ont une responsabilité, c'était à nous d'alerter. Mais franchement, franchement, on a essayé de le faire, mais les gens ne voulaient pas nous en entendre parler. Je veux dire, le congrès le congrès de Tours, où Marine Le Pen a été élue présidente, et donc était un moment, mais aujourd'hui on s'en rend compte à quel point c'est un moment historique et important dans l'histoire de l'extrême droite institutionnelle. Il y avait 3000 personnes dans la rue à Tours. C'est-à-dire vraiment une manif. On n'était pas fiers, quoi, tu vois.
Alors que le congrès de Strasbourg, qui est un peu le summum de ce qu'on a pu faire, c'est 50 000 personnes, internationales, etc. D'où
en 97, quoi. Ouais. C'est vrai, c'était. Et tu vas 10 ans plus, enfin c'est un peu ça. Plus de 10 ans après. Et
d'où l'intérêt des groupes militants, justement, de conserver à la fois cette mémoire, cette histoire, ces analyses et de les transmettre. Il y a, à mon avis. Tu me diras si j'ai raison ou pas. Alors, je pense que c'est fondamental sur la présentation que tu as faite de l'idéologie contre-révolutionnaire qui naît dès 1789 et ces années-là et qui va servir vraiment de soubassement à toute la réaction à la fois en France mais aussi en Europe. Donc il se trouve que dans les groupes militants on se forçait à les consommer de l'historiographie pour bien comprendre et identifier ce qu'il en ressortait. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'important, c'est qu'il y a la disparition dans notre société de groupes qui ont pu connaître véritablement ce qu'était l'efficacité de l'extrême droite au pouvoir et qui aussi se mobilisaient sur des questions non pas existentielles mais mémorielles, en tous les cas de combat.
Alors, t'as raison, et en même temps, il n'y a plus non plus de Waffen-SS au FN. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le temps, de toute façon, joue pour l'extrême droite. Parce qu'il y a, bah, y a le fait que plus on s'éloigne. Parce que pendant très longtemps, quand même, l'extrême droite, elle a été définie par rapport à l'expérience fasciste, à l'expérience nazie. Je veux dire, on l'a restreinte à ça, alors que historiquement, en France, bah, ça existe avant. Et puis, ça existe pendant cette période aussi sous une autre forme. Enfin, tu vois, nous, la colonne vertébrale de l'extrême droite en France, c'est vraiment le courant maurrassien, donc l'Action française, entre autres, mais ça a vraiment irrigué même toute la classe politique de droite en France. Et donc, il n'y a pas vraiment grand-chose à voir, autre chose que le fascisme ou le nazisme. Mais évidemment, il y a la Shoah, enfin, tu vois, il y a un traumatisme européen qui fait qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le point de référence, c'est celui-là. Et que, en réalité, l'extrême droite en France, elle s'est reconstruite non pas sur des modèles fascistes ou nazis, parce qu'en fait, le néonazisme en France, contrairement en Allemagne, par exemple, où tu as une scène néonazie très vivace, même encore aujourd'hui, en France, le néonazisme a toujours été vraiment quelque chose de très, très groupusculaire, très anecdotique. Et même le néofascisme, là, pareil, par rapport à l'Italie ou l'Espagne, où tu as des courants néofascistes très forts, enfin, tu vois, Mélanie, elle est extraite de là et tout ça. Nous, en France, le courant sur lequel vraiment ça s'est reconstruit, enfin je pense à l'œuvre française ou des courants comme ça, qui sont des courants qui se revendiquent néofascistes, mais qui en vrai s'inscrivent dans la tradition de l'extrême droite à la française, antisémite, nationaliste, etc. Et que cette filiation aujourd'hui, bah, tu la retrouves avec Marion Maréchal, avec Éric Zemmour sur la partie institutionnelle, et puis elle irrigue à peu près tout le courant de la droite radicale, qui est un mouvement, comme tu l'as dit, contre-révolutionnaire, réactionnaire, et pas du tout, tu sais, il y a cette image aussi de l'ordre nouveau, du fascisme et du nazisme, ouais. Tu vois, qui se projette dans une société autre, tournée vers le futur. Alors que l'extrême droite en France, est complètement tournée dans l'autre sens. Elle ne regarde qu'en arrière et tout ce qu'elle propose, c'est de revenir à comme c'était avant. Et tout ce qui, toutes les évolutions, etc., sont dénoncées comme des formes de décadence, tu l'as dit tout à l'heure. C'est très important d'avoir cette idée que c'est ça, quand même, ce qui marche aussi. Hein. Le RN, il se construit aussi là-dessus, mais en version soft. C'est-à-dire surtout de gommer toutes les références. Et aussi, hein, je veux dire, il y a vraiment une... Ça, c'est un truc réel. Ils n'y arrivent pas parce que ils n'arrivent pas à vraiment se débarrasser des personnes qui les rejoignent. Mais il y a aussi un vrai travail de purge qui s'est exercé au sein du RN, enfin du FN déjà, en se débarrassant des cathos tradis, etc. Enfin, ça s'est fait par étapes. Et aujourd'hui, bah, il y a encore, enfin, je veux dire, réellement, quand ils ont des gens qui se présentent pour être candidats, etc., ils épluchent, enfin, ils essayent en tout cas. Alors, évidemment, il y en a qui passent à travers les mailles du filet. Bah, forcément, si tu défends un projet raciste, à quel moment tu t'étonnes d'attirer des gens racistes ? Enfin, tu vois, c'est là où on marche sur la tête. Mais en tout cas, il y a cette volonté de s'affranchir quand même du passé et du folklore. Là où tu as des groupes, tu vois, Reconquête, par exemple, quand Éric Zemmour a monté son nouveau mouvement, bah, lui, il s'inscrivait plutôt dans une tradition un peu à la Jean-Marie de dire bah, que qui même me suive, quoi. Et on ne sera pas trop regardant sur qui vous êtes.
Il y avait des besoins aussi.
Aussi, bah, tu ne reconstruis pas un mouvement à partir de rien, mais ils ont pu aussi le reconstruire parce qu'il y avait toute une scène délaissée au sein, par le FN, puis le RN, de groupuscules dont en fait, le RN n'a plus besoin. C'est plus comme à l'époque de Jean-Marie, où il y avait besoin à un moment aussi pour faire vivre la structure militante. Mais là, le RN n'a pas de structure militante, ils n'en ont pas besoin. C'est un parti qui est entièrement organisé autour des élections. Et s'il y a un truc dont tu n'as pas besoin, voilà. Après, encore une fois, il faut prendre l'extrême droite dans sa globalité. Il ne faut pas juste dire c'est le RN. Et là aussi, c'est un truc, tu vois, qu'on ne peut plus faire. Avant, il y a eu pendant très longtemps une focalisation sur le Front National. C'est-à-dire, il y a des gens pour qui l'antifascisme se résumait à la lutte contre le FN parce que bah, c'était ça le problème, etc. Et le reste, on verra plus tard. Aujourd'hui, on voit bien, ça n'a aucun sens d'être dans une lutte strictement contre le RN. Mais il y a cette tentation encore aujourd'hui de faire réactiver un antifascisme qui serait juste de barrage au Rassemblement National, parce que bah, c'est vrai qu'il y a aussi ce danger quand même. On voit qu'il y a une espèce de submersion, puisque maintenant, ils gagnent à peu près à toutes les formes d'élections européennes. Bon, ça a toujours été... ils ont toujours eu des scores forts, mais sur des élections, tu vois, on voit au municipal, même si ça n'a pas été un raz-de-marée, il y a quand même une progression énorme. Enfin, en nombre d'élus, je crois, municipaux, c'est vertigineux. Voilà, c'est énorme. Et on voit qu'à chaque échéance, il n'y a pas eu une échéance électorale là, sur les 5 ou même 10 dernières années, je pense, où tu n'as pas eu systématiquement, tu vois, un palier qui a été franchi par le RN en termes de gains électoraux. Je crois qu'il y a eu un moment des municipales où ça s'est un peu tassé, je crois que c'est celles les précédentes, où voilà. Mais il y a une espèce de, comme ça, d'inéluctabilité qui fait que les gens disent « bon, il faut qu'on se reconcentre à nouveau là-dessus et tu vois, de réactiver bah, tout cet antifasciste républicain. »
Il y a une espèce de paradoxe, justement, parce qu'il y a une intégration, une professionnalisation, et donc, du coup, comme tu l'as dit, il y a une marginalité qui fait qu'il y a une réapparition de groupes violents dans les rues, etc. Et quelque part, il y aurait donc ce RN qui respectabilise, qui est une entreprise, hein, il faut aussi le dire, avec des entrepreneurs politiques à l'intérieur, des entreprises, des entrepreneurs de haine, quoi. Le Rassemblement National et le Front National, c'est d'abord une PME familiale, hein, qui permet aussi d'avoir des moyens de vivre. Et donc, du coup, il n'est pas étonnant, il n'est pas déconnant qu'il y ait à l'intérieur, dans ces marges, justement, la réapparition de ces groupuscules ou de ces groupes violents dans la rue dont vous faites la liste sur la Horde.
Alors, bah, y a ça, mais l'autre obstacle, à mon avis, puis après, peut-être tu veux... Il y a un truc vraiment quand même qui est vraiment important, c'est que là où ça ne peut pas marcher, c'est que la normalisation du RN dans le paysage politique est achevé. Je veux dire, là, c'est fait. Je veux dire, on le voit. Qu'est-ce qui permet de le voir ? Bah, c'est la diabolisation de LFI. C'est-à-dire qu'il y a toujours besoin de pouvoir que, en fait, les partis dits démocratiques se mettent en scène et en résistance contre quelque chose qui veut les détruire. Avant, c'était le FN. Et bah, aujourd'hui, c'est LFI qui joue ce rôle-là. Dans l'histoire, sur l'union droite-extrême-droite, il ne faut pas oublier que la percée du FN à Dreux s'est faite sur une liste d'union avec la droite. Donc, c'est-à-dire qu'au moment où le FN fait sa percée électorale, c'est avec la droite, déjà. Donc, le verre était dans le fruit, tu vois. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'évolution. Quand le FN, on se rappelle, les régionales 98, je crois, il y a des alliances, il y a des listes communes entre la droite et le FN. Même à une époque où le FN était diabolisé, c'est ça que je veux dire, où on disait c'est les fascistes, etc. Il y avait déjà ces accords-là, il y a toujours eu ces petits arrangements, donc la droite a toujours su trouver l'extrême droite quand on en avait besoin.
Notamment démocratie libérale.
Là où c'est, voilà, par exemple. Et là où c'est nouveau aujourd'hui, c'est que ça se fait au nom de la défense de la démocratie. C'est-à-dire, il faut vraiment faire barrage à la gauche parce que sinon c'est le chaos. Et là, il y a vraiment un retournement, ça c'est plutôt marrant. Je pense que parce que tu parlais de Sarkozy, tu fais bien de parler de Sarkozy parce que c'était il y a 20 ans et à une époque où le FN était au fond du trou. Je veux dire, si Sarko émerge, c'est parce qu'il n'y a plus le FN. Donc on voit bien que l'extrême droitisation de la droite, c'est pas simplement pour courir après le succès du RN, comme on pourrait l'analyser, c'est vraiment aussi quelque chose qui est dans le projet de la droite, de redevenir une droite de combat, entre guillemets, et de redevenir la droite d'avant la Seconde Guerre mondiale, et de mettre un petit peu tout ce qui est droite sociale, etc., que ça retourne un petit peu voilà, à la niche, et de se réinventer autour de ça. Donc, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que la frontière entre la droite et l'extrême droite, elle est toujours ténue, et il y a des points de bascule. Sur la question de la religion, bah, on en parlait aussi hors antenne, je pense que c'est toi qui en parlais, sur le rôle fondateur qu'a joué le mouvement de la Manif pour tous, dans la réconciliation, on va dire, des mouvements d'extrême droite activistes et de la religion. Puisque la Manif pour tous, c'est pas un mystère. Hein. C'est un mouvement qui s'est monté dans les paroisses, etc. Mais qui a aussi été un mouvement de rue dans lesquels les groupuscules se sont... C'est assez rare. Hein. Il y a des mouvements... Il n'y a pas beaucoup de mouvements sociaux de droite. Mais quand il y en a, c'est les plus importants qu'on connaisse.
Puisque
pas que. Hein, parce qu'il faut aussi mettre les gens dans la rue. Et les plus gros mouvements sociaux en France, c'est des mouvements de droite. Hein. C'est-à-dire, c'est la défense de l'école libre, entre guillemets, l'école privée. On oublie.
C'est un million de personnes dans la rue, une manif. C'est un million de personnes pour un jour à Paris. Hein.
Et surtout, là, pour la manif pour tous, donc on ne parle même pas de la mobilisation contre le PACS, parce qu'on l'a peut-être oublié, mais c'était pareil, c'était des centaines de milliers de gens dans la rue à la fin des années 90. Et pour la manif pour tous, là, c'est carrément du délire. C'est un mouvement qui a duré pendant 2-3 ans. Qui a mis des centaines de milliers de gens dans la rue chaque semaine, qui est un mouvement aussi très créatif, qui c'était dans toute la France, et ça a touché, bon, c'était aussi la bourgeoisie dans la rue, c'est pas souvent, mais c'est un mouvement qui était aussi très large, et qui s'est appuyé sur les réseaux paroissiaux. Et c'est à ce moment-là où ça s'est croisé avec les mouvements politiques, réac, et on l'a dit, dans les mouvements d'extrême droite, l'aspect réactionnaire, c'est vraiment historiquement important. Et pour tous les petits groupes qui avaient plutôt fait l'impasse sur la religion, je pense aux identitaires ou aux groupes nationalistes révolutionnaires qui voulaient s'affranchir de ça, ils ont été rattrapés à ce moment-là par l'importance de la religion. Et puis un autre élément, c'est que l'explosion de l'islamophobie et puis surtout le rôle vraiment structurant de l'islamophobie dans le discours de l'extrême droite fait que l'identité chrétienne... c'est devenu aussi une façon, par opposition, de dire le meilleur moyen de lutter contre les musulmans, c'est d'affirmer sa propre foi. Et c'est quoi notre foi ? C'est la foi chrétienne. Et donc, du coup, aujourd'hui, on assiste à une formation. Enfin, les jeunes d'extrême droite aujourd'hui, les centres de les outils de formation qui leur sont proposés sont quasiment tous entre les mains de Cato Tradi. Le plus important, c'est Academia Christiana, qui accueillent tout le monde, c'est-à-dire ils accueillent également des gens qui ne sont pas baptisés.
Dont étaient membres de Rank.
Et ils accueillaient tout le monde, mais au sein de ces universités, il faut le savoir, c'est messe le matin, messe le soir, il y a une présence très forte de la religion. Et donc, les premiers temps, quand tu es invité, on te dit « bon, c'est pas grave que tu crois pas », puis au bout d'un moment, on te dit « mais pourquoi t'es pas baptisé ?» Et ça, c'est quand même quelque chose de très important. Et y compris, c'est pas par hasard, si les médias d'extrême droite, enfin toute la force de frappe de la galaxie Bolloré, etc., est également tenue par quelqu'un qui a un cateau tradi. C'est pas non plus Esterin pareil. Et après, il y avait la question de la violence. Mais je pense qu'il y a une autre question, parce que on le voit, enfin tu vois, comme tu l'as dit, c'est le rapport à la le rapport entre violence légitime, violence dans la revendication, parce que c'est toujours pareil. On voit bien que ce qui pose problème dans la violence de gauche, c'est que c'est une violence qui revendique quelque chose. C'est-à-dire quand tu détruis des objets, des symboles, C'est pas la même chose que quand tu t'en prends aux personnes, en fait. Et bizarrement, c'est là où c'est fou, c'est que, alors que l'extrême droite, on le sait, c'est documenté, enfin, on va parvenir à l'antenne, les auditrices, les auditeurs peuvent facilement trouver tout ça, on voit bien que la violence de l'extrême droite s'exerce quasi exclusivement contre les personnes. C'est contre les personnes pour ce qu'elles sont, d'abord. Il faut quand même le dire, ce n'est pas les antifascistes qui sont les premières victimes de l'extrême droite. C'est des gens qui sont attaqués uniquement pour ce qu'ils sont, leurs origines ou leur identité de genre, etc. Et puis ensuite, pour les idées qu'ils défendent. Mais c'est toujours à des personnes. Ça, c'est quand même très important. Et bizarrement, la violence, parce que ça date d'avant l'histoire de Derenc, en fait, ce qu'on a beaucoup reproché à la gauche, c'est la violence dans les manifestations, en fait. C'est celle-là qui était... Mmh. Et là où c'était extraordinaire, c'est que tu avais, sur les mêmes manifs, donc des gens attaqués dans l'intégrité physique par la violence légitime, donc dans les corps, dans les personnes, et que non, la violence qui était choquante, c'était celle qui était exercée contre des bâtiments, des poubelles, ou je ne sais quoi, ou des voitures,
des banques,
ou des banques, oui, mais même des fois, même un feu de poubelle était devenu un truc de malade, hein, quand même. Parce que ça, c'est pareil, c'est, on va... Là, c'est un peu l'émission des vieux cons, hein, vous avez compris. Donc, pour ceux qui se rappellent, moi, je me rappelle que dans les années 80 et dans les années 90 aussi, le niveau de destruction, enfin de violence symbolique d'objets détruits était beaucoup plus important. Enfin, moi, ma première manif en tant que, quand j'étais adolescent dans les années 80, il y avait des voitures en flammes sur les fins de cortège, parce qu'à l'époque, c'était pas la... cortège de tête, c'était cortège de queue où ça chauffait et il y avait des voitures en flammes et dans les journaux les gens disaient c'était même pas un commentaire, il y avait même pas de commentaire dessus. Oui, bon, c'était un peu agité à la fin, voilà, et les gens savaient que s'il y avait une grosse manif, il allait y avoir des trucs de pété et ça avait pas l'air de choquer grand monde. Voir des magasins pillés, enfin on se rappelle du CEA de Montparnasse ou des choses comme ça, là, c'est vraiment pour les vieux qui nous écoutent. Ça avait fait un peu sensation parce que c'était des jeunes de banlieue qui avaient... il y avait eu vol, donc là c'était un problème. On attaquait vraiment la propriété privée, mais sinon ça passait plutôt crème. Et là aujourd'hui, une manif où il y a une poubelle qui c'est une manif qui s'est mal passée. En théorie, c'est plutôt une bonne chose que les gens... soit choqué par... enfin, tu vois, que la violence pose question et qu'on soit dans une société où la violence est pas bien acceptée. Là où ça questionne, c'est la différence entre des violences qui sont invisibilisées et puis les autres. Mais oui, il y a ça. Et puis, je pense qu'aussi, dans le cadre politique, ce que les gens, ils aiment pas avec la violence, même symbolique, c'est cette vision du politique. Et là aussi, c'est une grosse victoire pour l'extrême droite, où toutes les opinions se valent, où, enfin, en gros, chacun son avis, quoi. Et ça date de au moins 20-25 ans, quand même. Vraiment, les premiers chocs, ça, c'est pareil, c'est des histoires anciennes, mais il faut imaginer qu'il y a une époque, quand l'extrême droite se faisait attaquer sur un marché, par exemple, des gens qui driffaient pour le FN, ils se faisaient taper, les gens disaient, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et tu disais, c'est des fachos. Et les gens disaient, ok. Mmh. Aujourd'hui, maintenant, ça fait très longtemps que, si ça passe ça, les gens font, mais c'est bien leur avis, chacun, t'es pas d'accord avec eux, chacun pense ce qu'il veut, et c'est la liberté d'expression. Là aussi, encore une fois, la liberté d'expression, c'est pas ça, non. La liberté d'expression, c'est que des gens qu'on n'entend jamais puissent s'exprimer. Ça, ça n'arrive toujours pas. Donc, il n'y a pas cette question de la liberté d'expression, elle est posée. C'est devenu aujourd'hui le droit d'affirmer des trucs racistes.
Ouais. Je voulais rajouter un truc, mais j'ai oublié. Bref, sur la question de la violence, ce qui est posé, c'est quand on a des groupes qui empêchent, par exemple, qui cassent une vitrine de librairie parce que elle expose des livres qui ne leur plaisent pas, ils interviennent lors d'un rassemblement parce que ce rassemblement n'a pas lieu d'être, ils font régner une espèce de terreur, comme il peut y avoir quand même sur Lyon, où il y a des militants syndicalistes qui sont attaqués, etc. La question, elle se pose de comment on fait, quoi. Comment on réagit face à cette violence pour tout simplement pouvoir exister?
Y a plusieurs trucs, parce que la difficulté aussi aujourd'hui, je trouve, et ça c'est pareil, c'est quand même un phénomène qui a pris beaucoup d'importance et d'ampleur, c'est la mise en scène de la violence. Et là, avec l'histoire de Quentin Derenc, on le voit bien. Le fait que aujourd'hui, presque tout ce qui se passe est filmé, enfin, qu'il y ait des images produites, etc. fait que ça a aussi une dimension, je sais pas, psychologique, je sais pas comment dire. Enfin, tu vois, tu parlais tout à l'heure d'un impact, mais c'est ça. Enfin, c'est là où ça ferme la réflexion. Du coup, les images prennent toute la place, et on voit bien que dans les manifestations, même les plus tranquilles, il y a ce un peu le goût du sang, quoi. C'est-à-dire qu'on va aller chercher les images qui vont marcher. Et des gens qui marchent tranquillement, c'est pas intéressant. Donc on va essayer d'instrumentaliser tout ça. Moi aussi, je me suis perdu un petit peu dans ce que je voulais dire, parce que je voulais le raccrocher à ce que tu avais précisé.
Je peux te relancer, si
ouais, tu veux. Oui, vas-y.
Alors, parce que moi, je suis d'accord et je suis pas d'accord, dans le sens où il n'y a pas de problème sur la violence comme un moyen. Mais si elle devient une spécialisation par le fait de groupes ou d'individus qui utilisent ce moyen pour se mettre en scène et comme s'identifiant avec ce moyen, alors il tombe dans le spectacle. J'explique. On a parlé en début d'émission du scalp qui a mis une bombe dans un lieu qui devait recevoir un meeting du Front National. Alors c'est super violent, mais comment ils l'ont fait ? Ils l'ont fait la veille, ils ont prévenu et ils ont fait un communiqué qui dégonflait justement cette violence. Ils ont utilisé un acronyme SCALP qu'ils ont pu utiliser après, etc., etc. Et donc en fait là, la violence, elle se trouvait réduite à ce pourquoi elle devait faire, c'est-à-dire un outil, un moyen. On a parlé ici en cours de l'histoire, il y a d'immenses moments de violence collective, populaire, contre les fascistes qui ont hyper bien marché. Alors dans notre mythologie, on parle souvent de deux événements qui ont eu lieu en Angleterre. C'est Cable Street, donc c'est à l'époque il y a un mouvement fasciste très important en Angleterre, mené par un type qui s'appelle Sir Oswald Mosley, avec les chemises noires, vraiment la caricature absolument, qui décide de faire une manifestation dans Londres. Il va y avoir des milliers et des milliers de syndicalistes, d'immigrés, de communistes qui vont venir et qui vont les défoncer et qui vont les empêcher physiquement de manifester. Ça va se reproduire aussi dans les années 80, pendant les manifestations de la station Waterloo à Londres, où il va y avoir aussi un immense. Donc là, c'est plus la même chose, c'est plus le même rapport effectivement au spectacle ou à l'outil violence qui fait que toutes les critiques politiques, elles se dégonflent. Est-ce que quelque part, il n'y a pas eu aussi, et ça, on est aussi responsable, je pense, nous, d'avoir colporté cet antifascisme comme une espèce de sous-culture urbaine. Sans la charger de ce truc politique qui fait que certaines personnes aujourd'hui peuvent considérer que l'antifascisme, c'est pas que ça, mais c'est aussi surtout ça.
Bah, franchement, on fonctionne bien parce que c'est exactement ça que je retrouvais plus, c'est ce que tu as dit, c'est-à-dire si la violence, elle est mise en scène et donc elle devient une fin, bah, c'est que on est à côté du sujet. Justement, ce qui nous distingue de l'extrême droite, c'est que on sait que la violence, ça peut être un outil. Alors tu demandes, ah voilà, ça y est, je me rappelle. Tu disais, bah, qu'est-ce qu'on fait ? Forcément, et ça, c'est vraiment historiquement, les premiers mouvements de résistance à l'extrême droite, c'est des mouvements d'autodéfense, tout simplement parce que l'extrême droite était à l'attaque, et concrètement, sur des meetings, des lieux, des librairies, déjà, des gens qui distribuent leurs journaux, etc. Donc c'est dès le départ s'organiser, et la première riposte, enfin, dans les milieux politiques de l'époque, anarchistes, communistes, etc., ou socialistes, la première réaction, ça a été d'organiser des milices d'autodéfense, tout simplement. En fait, il n'y a rien de nouveau. Et c'est pareil, les gens disent « Oui, l'antifascisme, aujourd'hui, c'est des milices d'autodéfense. » Mais gars, c'est l'histoire de l'antifascisme. Donc, en soi, que ça soit organisé, sauf que c'était au sein d'organisations syndicales ou politiques. Mais ça, c'est normal qu'à un moment donné, si tu es attaqué par un groupe organisé, a priori, la première idée qui te vient à l'esprit, c'est d'avoir un groupe organisé d'autodéfense. La vraie question, c'est comment t'es organisé et ce groupe, dans quelle mesure il est intégré dans le quartier,
dans le tissu,
pas simplement dans le monde politique, mais vraiment dans le territoire, j'ai presque envie de dire. Et c'est ça, où là, il y a un enjeu pour les antifascistes à ne pas se laisser piéger par le spectacle de la violence, d'une part, le fait que ça soit un truc qui engendre de la visibilité. C'est, dès que tu fais quelque chose de violence, tu sais que on va parler de toi. Donc il y a un piège là, qui est tendu aux antifascistes sur ce truc-là. Parce que la pratique de la violence, elle n'est pas nouvelle. Et elle fait partie du truc. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? C'est un peu ça que tu disais. Et là où c'est très différent, je pense qu'on doit en parler. de ça, de la question de l'autodéfense. Alors, les antifascistes disent souvent autodéfense populaire. Je trouve que c'est une expression qui dit pas grand-chose, c'est un peu pour se faire plaisir. En fait, je pense que ce que les antifascistes mettent derrière ce mot-là, quand on dit populaire, c'est un mouvement d'autodéfense ouvert. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qui doit pouvoir intégrer tout le monde, qui intègre aussi le fait que c'est plutôt sain de ne pas se sentir attiré par la violence. En tout cas, quand on a les idées qu'on défend, c'est normal que la violence soit un problème. C'est normal qu'on la fuit. C'est normal qu'on des fois, on la rejette même, carrément. Simplement, il faut qu'on soit organisé de façon à ce qu'on soit quand même efficace dans l'autodéfense, c'est-à-dire qu'elle soit collective, qu'elle soit ouverte, c'est-à-dire que quand je parlais de milice, ça n'a de sens que s'il y a une articulation entre les gens qui sont ciblés, et c'est pas en général les antifascistes, parce que c'est, on le voit bien, même dans l'histoire de Quentin Durand, que c'était même pas un meeting sur la question de l'extrême droite qui a été attaqué par l'extrême droite, justement. On le voit quand c'est les locaux d'SOS Méditerranée qui sont attaqués, on voit quand c'est sur des universités où il y a des descentes, très souvent, pour pas dire à chaque fois ou presque, alors il y a des exceptions, à Paris, il y a Young Struggle qui avait organisé une projection qui a été attaquée parce que c'était un événement antifasciste, donc ça existe aussi, où d'ailleurs une personne s'est fait tabasser par 10 autres à coups de pied, c'est les mêmes images que le lynchage de Quentin Durand, qui est exactement la même chose qui s'est passée, sauf que le copain de la CGT, il a eu de la chance et son traumatisme crânien n'a pas abouti à son décès, mais ça aurait pu être, c'était la même histoire. Sauf que, là on le voit bien, dans l'histoire de l'agression de la projection à Paris, il y a une mise en scène, vraiment, de l'extrême droite, de ça. Et ça, on le voit beaucoup. Et donc, c'est là où nous, il faut qu'on place des garde-fous, d'une organisation, une défense collective, qui ne fait pas l'impasse sur la violence, mais qui accepte que des gens la critiquent, qui accepte surtout, qui doit intégrer le fait de la laisser comme moyen, comme tu disais tout à l'heure, et puis de trouver des moyens d'être organisés qui correspondent à nos valeurs, inclusives. Enfin, il y a eu beaucoup de moqueries ou trucs comme ça sur le fait qu'on se questionne beaucoup sur comment nos services d'ordre sont organisés, même de ne plus appeler ça des services d'ordre et tout. Mais c'est pas couper les cheveux en quatre. Je pense que c'est des vraies questions politiques. C'est bien qu'on se les pose sur le problème de virilisme qu'il y avait dans l'antifascisme, qu'il y a eu beaucoup et qu'il y a encore, parce que on vit dans la société dans laquelle on est et souvent l'action, la violence physique, elle est... on est nous aussi victimes des stéréotypes de genre, malheureusement. Et donc tout ça, je sais que dans le milieu antifasciste, toutes ces questions sont posées. Les groupes antifascistes qui font l'impasse dessus, je ne dis pas qu'il y en a zéro, mais c'est à la marge. Et surtout, souvent, ces groupes-là le payent. Parce que si tu vas sur le terrain de l'ennemi, tu es sûr de perdre.
Mais justement, moi, je trouve que ça rejoint le début de cette conversation. Dans laquelle était mis en avant l'analyse politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut un antifascisme populaire, c'est-à-dire en fait aussi un peu massif et ouvert sur l'extérieur, le meilleur moyen justement de ne pas le réduire à des postures dans la rue ou derrière une table, c'est l'analyse politique. C'est le fait qu'il ait une parole qui parle d'autre chose justement aussi que ça, de ça, c'est-à-dire qu'il parle du système dans lequel on vit et donc dans lequel les gens puissent se reconnaître et c'est peut-être ça aussi qui créera qui crée le plus de liens et qui permet un ancrage territorial avec le plus ouvert en fait possible et inclusif.
Je vais dans le sens de Madeleine parce que justement, c'est là où c'est ce qu'on met aussi dans le bouquin. On en parle. On a le chapitre de pourquoi être antifasciste. Et je pense que c'est pas si dur justement d'avoir ce discours-là parce que à partir du moment où on l'a posé, je crois, on l'a bien dit aujourd'hui, que on se bat pas contre l'extrême droite parce qu'on considère que c'est des fous. Est-ce qu'on considère qu'ils sont méchants, qu'ils sont mauvais ou je ne sais pas quoi, ou qu'ils sont débiles, on combat par rapport à leur projet. Donc le meilleur moyen, ce discours, il peut quand même être audible parce que je pense, alors ça sera comme ça qu'on se quitte sur une note positive, je pense encore, contrairement à ce qu'on dit beaucoup, que l'extrême droite n'a pas gagné la bataille des idées dans le sens où je suis convaincu que dans la population, les gens sont plus attachés à la notion d'égalité et qu'il y a toujours une volonté populaire d'entretenir des rapports égalitaires et qu'il y a même une volonté d'aller dans ce sens-là plutôt qu'aller dans l'autre sens. Même si, on le voit bien du point de vue électoral, la crise étant le monde économique étant de plus en plus dur, etc., il y a cette tentation de dire « puisqu'il n'y en aura pas pour tout le monde, au moins qu'il y en ait pour moi et tant pis pour les autres ». Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais qu'en tout cas, le projet de l'extrême droite de vraiment revendiquer l'inégalité à tous les étages, ce n'est pas gagné pour eux. Et donc, que d'affirmer le contraire, de défendre l'idée d'émancipation, qui est aussi quelque chose, un mot qui s'est un peu perdu, je trouve, dans nos... et qui est au cœur, vraiment, je pense, de l'antifascisme politique, ça, c'est des choses qui peuvent résonner dans... Ça, la solidarité, c'est pareil. Alors, pour le coup, ça, c'est un mot qui garde encore... Et c'est vraiment un gros mot, enfin c'est vraiment le meilleur moyen, je pense, de lutter contre l'extrême droite que de valoriser ces luttes-là. Et d'ailleurs, pareil, un antifascisme cohérent ne peut pas faire l'impasse, ne peut pas se contenter de lutter contre l'extrême droite si ce n'est pas en même temps d'accompagner, d'être solidaire de celles et ceux qui seront en première ligne si jamais elle arrivait au pouvoir. Et donc, on le sait, les migrants, les étrangers en général, même...
Les travailleurs, tout le monde,
précaires,
en fait. Oui, tout le monde.
En tout cas, pas forcément tout
le
monde.
Non, mais pas tout le monde, mais en tous les cas,
une grande partie
de la population.
Et la plus grande partie, je dirais, c'est sûr, mais ça c'est connu, mais je pense qu'il faut le répéter, que l'extrême droite, c'est l'ennemi de tout le monde. Et c'est pour ça que nous, on a ce slogan, l'antifascisme, c'est l'affaire de toutes et tous, parce que voilà, on a toutes et tous à y perdre.
As any workers fight to make a stand, and behind them every honest working man. In unity with each other, and your friend becomes your brother, and in the tyrant's heart will be a lesson learned. Give them hope, give them strength, give them life, like a candle burning in the black of night. We're all with you in our hearts and in our minds, and we'll pray for the workers through the darkest time. And I know your fight is made of a farmer kind, and no riot stick will kill your peace of mind. So you can fight with all the spirit that you possess, cause you fight a struggle that is blessed. So give them hope, give them strength, give them life, like a candle burning in the black of night. Yes, we are with you in our hearts and in our minds, and we'll pray for the workers through the darkest time. The tyrant has no smile upon his face, cause he knows that in his mind he's in disgrace. The religion of union will take their breath away. Our time will come and then we'll have our say. Yeah.
Et voilà, Stash Bottle sur les Grégor. Ne rajeunis pas, mais qui prenait chanter une reprise de Angelic Upstart hein, pour les connaisseurs et ceux qui sont pointilleux sur les musiques. Voilà. Alors Denis, qu'est-ce que tu as retenu de cette deuxième partie de cette demi-heure ? Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent ou avec lesquelles
pas
tu...
Pas du tout. Ça m'a pas du tout dérangé. Bien au contraire, c'est super intéressant.
Alors, à mettre en regard avec la première partie, évidemment, ouais. Où on était plus dans le chose. Hein. Ce qui est sûr, c'est que l'extrême droite a évolué, elle s'est renouvelée. Je crois qu'on l'a bien dit avec effectivement l'arrivée de Marine Le Pen à la tête de la PME, mais aussi cette religiosité ou religiosisation qui est revenue avec la manif pour tous et l'architecture d'une certaine droite catholique. Qui renoue avec ce qui avait pu avoir lieu avant la Seconde Guerre mondiale.
Avant la Seconde Guerre mondiale.
Tout à fait. Alors, un petit regret quand même dans l'entretien qu'on a eu, on n'a pas assez insisté, mais bon, on a que 2 heures, on a fait 2 heures hein, déjà là, donc c'était un peu difficile. J'aurais quand même souhaité qu'on aborde de manière plus intense la question de la guerre d'Algérie. Qui est un moment clé extrêmement important puisque à l'intérieur de cette extrême droite, il va y avoir la question de l'abandon de l'Algérie française avec évidemment l'OAS et toute cette partie. Bon, cette partie de l'extrême droite a encore des filiations puisqu'il y a des généalogies, hein, bien sûr, très 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 profondes. Mais bon, il y a plus grand monde. Qui a été partisan de l'Algérie française, qui est actif à l'extrême droite. Alors il y en a un qui préside l'Assemblée nationale, doyen de l'Assemblée nationale, hein, 82 ans, hein, il est élu du Sud. Et puis bon, il y a des enfants et il y a des descendants de militants de l'Algérie française et de l'OS. Mais de manière plus politique, plus idéologique, cette question de l'Algérie, elle pose la question du colonialisme, elle pose la question de l'immigration dans le rapport qu'a une certaine partie de la société française dans son histoire et dans sa construction politique par rapport à un objet. C'est-à-dire que, on l'a dit, hein, la question de l'anti-égalitarisme, c'est le fondement de la réaction et c'est le fondement de la droite et d'une partie de l'extrême droite, mais sur ces couches culturelles et politiques qui constituent le sédiment de cette extrême droite, il peut y avoir des ajouts spécifiques quant aux histoires des pays, et évidemment la question de l'Algérie, du colonialisme et donc de la relation aux immigrés est vraiment très importante.
Donc. Ça vient d'éclater avec l'élection d'un black à la mairie d'une ville de 150 000 habitants. C'est assez incroyable quand même.
Ah ouais, c'est vraiment le dégueulis.
Le dégueulis incroyable. Ouais. Bon,
alors qu'il y avait déjà des Noirs qui avaient été élus à tête des mairies. Hein. Il y avait ce fameux... Ah, j'ai oublié son nom, zut en Bretagne. Ouais. Faudécilla. Oui,
le leader de SOS Racisme à une époque.
Faudécilla, oui, c'est SOS Racisme. Mais bon, on retrouvera, c'est pas grave. Mais là, on a vraiment le lâchage total des chevaux. Hein. C'est-à-dire que là, on a vraiment tout le refoulé, tout l'impensé qui ressort. Bon, voilà, ça aurait été bien, mais ça aurait nécessité vraiment... une émission pleine et entière. Souligner aussi hein, toujours que dans la construction des imaginaires politiques et des référents politiques, alors il y a évidemment les référents des groupes qui font de la politique, mais il y a les structures de la politique. Et il ne faut jamais oublier que la Ve République est directement issue de la guerre d'Algérie, puisque son écriture, son invention, sa constitution, son apparition intervient après le putsch des généraux et la crise algérienne, donc la crise de la guerre d'Algérie, et l'appel du général de Gaulle, enfin on va rechercher le général de Gaulle pour éviter l'effondrement du pays, trouver une solution à la crise algérienne, et ça va déboucher sur la rédaction de la Constitution de la Ve République, donc avec tous les petits éléments qui reviennent de temps en temps, hein, comme par exemple l'état d'urgence, ce genre de choses, hein, qui sont vraiment des marqueurs très très importants de ou le couvre-feu, qui sont vraiment des marqueurs très importants de la pratique de l'État français. Mais bon, comme vous en avez l'habitude dans cette thématique et comme vous vous en doutez avec les Grégoire, c'est un sujet qui nous intéresse, sur lequel on a un positionnement qui peut apparaître ambigu mais qui est fait un petit peu plus élevé. C'est-à-dire que on ne se définit pas comme antifasciste, ce n'est pas notre dénomination principale, on se définit comme communiste anarchiste. Et donc, du fait, nos adversaires qu'on est amené à rencontrer, puisque si jamais on vient à monter et si jamais on vient à être en capacité d'imposer ou de faire triompher des idées, des mouvements égalitaires, et donc attendre vers le communisme ou l'anarchie, on sera forcément, à un moment ou à un autre, amené à combattre ce type d'individu qui s'appelle fasciste, extrême droite ou bourgeois radicalisé, quoi, puisque pour nous, le fascisme, c'est en dernière instance l'arme, l'outil de la bourgeoisie pour défendre ce qu'elle a de plus cher, c'est-à-dire la propriété des moyens de production et la propriété privée individuelle et donc le contrôle de la société et de la production. Voilà.
Alors, on parlait d'anticolonialisme à propos de l'Algérie. Il y a eu une décision du tribunal administratif de Paris la semaine dernière, qui a reconnu la faute de l'État français pour ne pas avoir mis en œuvre les moyens susceptibles d'éclairer les circonstances précises du décès d'un des tirailleurs africains massacré par l'armée française en 1944. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé ? Le 1er décembre 1944, dans un camp de Tiroaille, en périphérie de Dakar, des tirailleurs sénégalais qui avaient été faits prisonniers par les Allemands lors de la guerre et qui a été rapatrié dans leur pays récemment, demandent le paiement de leur solde, évidemment, un droit qui leur était promis depuis des mois. La réponse est sanglante et d'une violence inouïe. Des centaines d'entre eux sont rassemblés sur une esplanade du camp, froidement mitraillés, puis jetés dans des fosses communes. Pourtant, dès le lendemain, les autorités coloniales et militaires françaises protesteront une rébellion armée de tirailleurs et feront état de 35 morts. Il y en a eu beaucoup plus. Entre mensonges d'État et fraude scientifique, il y a quelqu'un qui s'est battu, qui continue de se battre, une historienne, Armelle Mahobabon, qui, depuis 10 ans, mène un véritable combat pour réhabiliter ces hommes et faire connaître comme victime d'un crime d'État. Alors, elle a édité un bouquin qui s'appelle « Le massacre de Tiaroy », qui est sorti il y a 2 ans, je crois, 2-3 ans, et qui est absolument fondamental. Alors, dans ce tribunal administratif, il a fait un communiqué, c'est quand même assez rare. Il a relevé que les autorités françaises, après avoir délivré plusieurs informations erronées, c'est marrant qu'on puisse dire, à la famille de ce soldat, dans les années qui ont suivi son décès, n'avaient ensuite pas mis en œuvre tous les moyens à leur disposition pour faire la lumière et les circonstances précises de sa mort, ainsi que sur son lieu de sépulture. Il faut savoir quand même que l'armée française, mais aussi l'État français, c'est l'État français qui a fait tout pour faire croire que c'était des gens qui s'étaient révoltés, qui a fait tout pour croire que c'était des déserteurs, alors que c'était des gens qui avaient combattu le fascisme. Bon, sur place, le traumatisme de ce massacre reste vif au Sénégal, dans les pays d'origine de ces soldats, qui ne sont pas que le Sénégal, il y a aussi le Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Burkina Faso. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. C'est quand même intéressant quand même de voir que plus de 82 ans après, un tribunal administratif m'a dit que vraiment on a exagéré. Hein.
Ouais. Mais il n'y a jamais eu de véritable reconnaissance. Ça commence tout doucement. Après, il y a eu un travail assez peu important des historiens. Donc il faut déblayer tout ça, évidemment. Mais c'est une mémoire qui est hyper, hyper forte là-haut. Quelque chose qui a toujours été connu.
Oui, parce que les 35 morts, c'est largement plus.
Oui, largement. Ouais. Et puis surtout, c'est l'aspect de la trahison et le sentiment d'avoir vraiment été considérés à la fois comme de la chair à canon, mais aussi comme des vies qui ne valaient rien. D'ailleurs, il y a eu assez peu de mots de la part des différents chefs d'État français, et même dans la capacité à reconnaître les crimes de la colonisation et la colonisation comme un crime. J'ai retrouvé le nom du maire de Bretagne, du maire noir, c'était Kofi Annan.
Ouais.
Et alors, c'est pas le premier. Hein. Il y a eu un maire conseiller municipal au 19e siècle, qui était un Cubain, qui s'appelait Severino quelque chose. Je sais plus, mais par contre, le premier vraiment qui a marqué les esprits en France métropolitaine et au 20e siècle, c'est Raphaël Élysée. Raphaël Élysée, qui a été élu maire de Sablé-sur-Sarthe. Au tout début du 20e siècle, et Raphaël Élysée, il est mort en déportation à Buchenwald, à l'âge de 54 ans, en 1945. Et ça a été, comment dire, à la fois hyper important, puisque son grand-père, Raphaël Élysée, donc c'est une famille qui vient de la Martinique. Et son grand-père était esclave. Il a été affranchi, il est venu donc en France, il a fondé sa famille, la famille Élysée. Et son père, Raphaël, a été conseiller municipal de Sablé-sur-Sarthe. Et ensuite, lui-même est devenu maire. Il mourra en déportation, évidemment, à la fois arrêté par les nazis et par l'État français et par Vichy, voilà ce que Vichy, je voulais dire. Quoi.
Fait, hein.
Donc c'est ça aussi, on va dire double peine pour lui, puisque double honneur pour lui, descendant d'esclaves et premier noir. Je pense que c'est important, hein, ce qui se passe. Ce qui est important aussi, c'est l'incapacité d'une certaine partie de la classe politique de pas s'engager là-dedans. Parce que bon, alors il y a eu une manifestation samedi à Saint-Denis. Il faisait beau, il y avait peut-être une dizaine de milliers de personnes qui sont venues. Alors c'est pas mal, c'est pas assez. C'est pas mal quand même, parce que bon, il y avait un aspect quand même sacre, intronisation du maire de Saint-Denis, puisqu'on est quand même dans un bouillon de culture politique qui est quand même un peu particulier, hein. Saint-Denis, les alchimies entre le PCF, les groupes, tout ça, il y a un peu de grenouillage quand même, hein, faut pas non plus être naïf, ça bouge quand même. Par contre, ce qui est assez alors peut-être pas incroyable si on l'analyse comme ça, mais en tous les cas marquant, c'est que des chefs de parti de groupes de gauche ont décliné l'invitation à se rendre à cette manifestation, que ce soit Fabien Roussel, hein, pour le PCF, que ce soit Olivier Faure pour le Parti Socialiste. Alors, c'est pas qu'on le déplore ou qu'on en soit triste, hein, c'est pas ce qu'on dit. C'est que on est en train quand même d'avoir des marqueurs très très forts pour la séquence politique qui va arriver. On a des individus qui ont été capables de se rendre à une manifestation de policiers. À l'appel de syndicats d'extrême droite.
C'est incroyable.
Limite qu'on peut déclarer de factieux, puisque il y a une partie des organisateurs de ces manifestations devant le ministère de la Justice qui a été que t'es de l'ordre de l'extrême droite et factieux. Et on voit que pour eux, il n'y a même plus l'envie d'aller chercher, gratter cette petite partie de l'électorat qui pourrait leur permettre de boucher les trous. En tous les cas, de faire un peu quelques pourcents par-ci par-là, et même de la part du gouvernement et de la bourgeoisie qui gère les affaires, il y a même pas eu 2-3 têtes d'affiche qui sont venues, ne serait-ce que pour faire le service minimum. C'est-à-dire, en gros, président de l'Assemblée nationale, ministère de l'égalité, machin, truc bidule. Enfin, voilà, hein, on va dire le service minimum qui vient apporter l'argenterie, etc. Enfin, pour dire que la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Et donc là, on voit vraiment bien que on a à la tête de l'État et du gouvernement une portion qui est de plus en plus restreinte. Vraiment un groupe qui est minoritaire, qui s'accroche au maximum, comme une moule à son rocher, à son pouvoir. Et alors, attention, parce que ça veut dire qu'il va y avoir du sport cette année. Parce que, alors, il y a effectivement la question raciste qui va arriver et qui va être jouée à fond les ballons pour créer des divisions à l'intérieur de la société française. Et puis, il y a la crise sociale. Qui va arriver à fond parce que d'une part avec le problème du pétrole il y a effectivement l'essence qui devient très compliquée, mais va y avoir un choc inflationniste qui va arriver d'enfer.
Tout à fait.
Et alors là il va falloir s'accrocher à son porte-monnaie.
Mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague. Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron ?
Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.
Radio Primitive.
Engagé pour l'éducation populaire.